Un jour dans l'histoire. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Christophe Dickès.
Bonjour à toutes et à tous, merci d'être à l'écoute de Canal Académie. Il y a un peu plus de 2 ans, Canal Académie s'était rendu au château de Versailles afin de faire une visite insolite des lieux. Nous étions partis à la découverte des appartements du roi, de la reine, mais nous nous étions aussi arrêtés à l'entremure, aux pièces plus ou moins grandes qui jouxtent ces grandes galeries, ces petits salons, ces bibliothèques fermées aux yeux du grand public. Nous avions aussi exploré les lieux dits de commodité, c'est-à-dire ce que nous appellerions aujourd'hui nos salles de bain. Versailles, donc, au-delà du symbole politique, c'est ce que nous avions entrevu et c'est ce que je vous propose de redécouvrir aujourd'hui avec nous. Nous allons ainsi répondre à 1000 petites questions qui assuraient la sécurité du château. Comment était-elle assurée? Qui pouvait être logé à Versailles? Comment l'on s'y nourrissait? Le château et les jardins étaient-ils des lieux ouverts ou au contraire fermés au public? Comment le château était-il entretenu et par qui? Vous le voyez, nous ne parlerons ni d'absolutisme, ni de théorie politique, mais de ce que nous nommerions aujourd'hui tout simplement l'intendance ou bien l'administration. Ce n'est pas Versailles côté cour ou côté jardin, tant l'un et l'autre ont leur signification propre au château. Non, ce sera Versailles dans son quotidien, véritable ville dans la ville. Mathieu Davignat, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir répondu à notre invitation. Mathieu, vous êtes un habitué de Canal Académie, puisque nous avions ensemble réalisé cette série d'émissions consacrées donc à Versailles. Il y a actuellement aussi une série d'émissions consacrées au jardin de Versailles, auxquelles je renvoie nos auditeurs. Et à l'époque de ces émissions enregistrées ensemble, vous étiez en cours de rédaction d'un ouvrage. Cet ouvrage est maintenant disponible. Alors, il est sobrement intitulé « Le Versailles » de Louis XIV et il est paru aux éditions Perrin. Ce livre présente tout simplement tous les aspects de cette vie quotidienne au château. On peut dire, Mathieu, que vous vivez littéralement au château de Versailles, puisque vous êtes responsable de la recherche et de la formation au centre de recherche du château. Quand, Mathieu, avez-vous décidé d'entreprendre un tel travail?
Alors, ce travail a été, en fait, imaginé il y a quelques années déjà, et notamment de façon véritablement formelle, à partir de début 2006, mais il résultait déjà de plusieurs recherches préalables sur le château de Versailles et dont j'ai voulu me resservir plus avant dans cet ouvrage. Donc, c'est un ouvrage qui m'a pris à peu près 3-4 ans de recherche, si on compte véritablement le temps que j'ai pris pour ce livre.
Alors, je souhaite directement aller vers le sujet. Alors, on ne va pas revenir sur les origines du château, hein, qui sont assez connues. Il y a le premier, puis le deuxième Versailles de Louis XIII, le pavillon de chasse, le lieu de retraite. Nous laisserons aussi de côté la politique, même si elle a un peu parfois son importance, notamment pour les cérémonies, le gouvernement et le pouvoir. Laissons ça de côté. Vous avez voulu, vous intéresser, j'allais dire, vous placer du côté de l'habitant, à la fois, et du visiteur.
Oui, c'est-à-dire qu'en faisant ce livre sur Versailles, on pourrait dire un énième livre sur Versailles, et pourtant le but, c'était vraiment de se placer du côté du courtisan qui arrive à Versailles, et lorsqu'on arrive à Versailles, il y avait plusieurs questions essentielles. C'était 1, de se loger, 2, de manger, et 3, éventuellement de se divertir. Donc c'est vraiment l'aspect arrivant à Versailles, qu'est-ce que je dois faire pour y rester, gagner plus de place, pouvoir manger gratuitement. Et c'est vraiment cet aspect mécanique de la cour qui m'intéresse, de décortiquer comment fonctionnait la société de l'Ancien Régime et la société de cour en particulier. Alors on peut dire que ce n'est pas forcément l'histoire politique, mais ça explique beaucoup, en tout cas, des mentalités de l'Ancien Régime.
Alors entrons dans le sujet. Le premier aspect que vous abordez, c'est le logement. Alors d'abord, avant de voir le logement, voyons sa construction. Versailles est continuellement en construction sous le règne de Louis XIV ?
Alors Louis XIV hérite un château de son père qui est tout à fait premier XVIIe siècle. Et s'il y vient ponctuellement à partir des années 1650, il commencera véritablement les travaux à partir de 1660. Et c'est vrai qu'entre 1660 et 1715, ou même on va dire 1710 pour être plus honnête, le château sera continuellement en travaux. Et c'est-à-dire que c'est un château qui change de statut au fur et à mesure du règne de Louis XIV. Et il n'a pas forcément dans l'idée dès le départ de faire ce qui sera l'aboutissement de ce que nous voyons aujourd'hui. En revanche, c'est un château en perpétuelle construction, en travaux. Donc c'est la poussière, c'est le bruit, ce sont les odeurs, c'est vraiment la gêne permanente. Mais Louis XIV fera en sorte que lorsqu'il construira ses appartements personnels, il pourra continuer à y vivre, puisqu'il fera fermer, par exemple, on sait très bien que lorsque la grande galerie est en construction, une des parties du salon est murée et on continue à vivre de l'autre côté. Donc c'est une mini-ville, c'est un lotissement, on peut dire, en construction permanente et dont il s'agira de trouver les habitants qui auront droit de loger dans ce palais.
À la fin du règne de Louis XIII, c'est une demeure privée pour le roi. Quand est-ce qu'elle devient véritablement publique ?
Alors, Versailles a un statut un peu particulier, c'est-à-dire que Louis XIII ayant construit le premier château, ça lui appartient en propre. Et logiquement, selon la tradition de la monarchie française, le château aurait dû retomber dans le domaine de la couronne à la mort de Louis XIII, puisque c'était un château construit de son vivant. Or, Louis XIV n'aura de cesse, tout au long de son règne, de conserver ce caractère privé de son château. D'où la difficulté pour trouver des éléments qui touche à l'intendance de Versailles. Néanmoins, il la consacrera véritablement comme résidence officielle, même s'il continuera à avoir une gestion privée. On peut dire en 1682, lorsque Versailles devient le siège permanent de la cour et du pouvoir politique. Et à ce titre, justement, Versailles est ouvert au public, puisqu'il y a une tradition, toujours de la monarchie française, de l'accessibilité du monarque par les sujets.
Alors nous allons y revenir à cette accessibilité, bien évidemment, mais vous décrivez au fond un processus d'une, ce qu'on appellerait aujourd'hui une ville nouvelle. Il se crée une ville nouvelle, certes demeure privée, mais qui s'étend avec les dépendances. Et ces fameuses dépendances, ce ne sont pas des hangars, non, ce sont des lieux où l'on vit.
Alors c'est-à-dire qu'effectivement, la ville se développe totalement autour du château. Alors il y avait un bourg de Versailles, on ne peut pas dire que Versailles n'existait pas totalement. En revanche, ce qui est vrai, c'est que toute l'architecture et tout l'urbanisme, comme on dirait aujourd'hui, se développe autour du château et s'enrichit de la présence de la cour à Versailles. Donc on est dans un système effectivement de ville nouvelle avec des lois, des règlements qui incitent la population à venir s'installer à Versailles, où Louis XIV décrète des édits dans lesquels il limite les impôts fonciers, voire il annule complètement les impôts fonciers pour que les personnes viennent s'installer à Versailles. Donc il y a différentes ordonnances de la sorte et on voit effectivement différents quartiers se développer au fur et à mesure tout autour de Versailles et progressivement l'augmentation même du domaine. C'est-à-dire qu'on est à la fin du règne de Louis XIV dans un domaine qui atteint 8000 hectares. Donc, sachant qu'on était parti à peu près de 50-80 hectares au temps de Louis XIII.
Alors, avant de voir ces hommes de cour qui logeaient à Versailles ou qui souhaitaient, parce qu'il y en a, il y a beaucoup de personnes qui souhaitent mais qui ne logent pas, il y a ces ouvriers, et ces ouvriers, il faut bien les loger.
Oui, alors ils sont logés tant bien que mal sur le chantier. Alors il y avait le fameux hôtel de Limoges qui était un amas de baraquements justement qu'on appelait hôtel de Limoges parce que la plupart des maçons et des manouvriers venaient du Limousin. Donc c'est la raison pour laquelle on a appelé cet hôtel un peu, alors pour faire référence à ces ouvriers, à l'origine géographique de ces ouvriers. Et ils logent dans les cabarets, dans les auberges. Les auberges se multiplient justement pour accueillir à la fois les personnes de la cour, tant qu'il n'y a pas de véritable logement décent au sein du château. Et dans les auberges se côtoient aussi bien la noblesse que les ouvriers. Alors il y a des rixes de temps en temps et on sait très bien qu'il y a des règlements qui étaient faits, notamment pour limiter les consommations d'alcool et choses comme ça. Et notamment le surintendant général des bâtiments, Colbert puis Louvois. Louvois, avec plus de fermeté en tant que ministre secrétaire d'État à la guerre, réprimera véritablement tous les abus qui pouvaient se passer en ville entre les ouvriers.
Vous montrez un Colbert qui est opposant à Versailles.
Oui, Colbert est à ce côté un petit peu du parfait courtisan, mais il alerte, c'est-à-dire que comme contrôleur général des finances, il voit les dépenses qui sont affectées à Versailles avec beaucoup d'inquiétude parce qu'il ne voit pas le dessein de Louis XIV, il n'imagine pas que Versailles prendra l'ampleur qu'on lui connaît aujourd'hui. Et surtout pour lui, le Palais des Rois de France est à Paris, c'est le Louvre, il n'y a pas lieu de construire un nouveau château. Et malgré tout cela, c'est-à-dire malgré son envie d'alerter Louis XIV, il fera en sorte, mettra tout en œuvre pour que le château se bâtisse dans les meilleures conditions.
Quelle est la capacité d'accueil du château et de ses dépendances ?
Alors, on peut estimer à terme, parce qu'on a entendu beaucoup de chiffres, on a lu beaucoup d'informations là-dessus. Pour ma part, en tout cas, pour ce que je considère comme étant la seule source fiable, on a un inventaire véritablement des personnes logeant à Versailles et dans les différents lieux de Versailles en 1722, au moment où la cour revient à Versailles après l'avoir quittée à la mort de Louis XIV en 1715. Et on peut estimer qu'en 1722, on est à peu près dans les proportions de la cour de la fin du règne de Louis XIV. Alors, il y avait à peu près 4000 personnes qui logeaient, tout confondu, dans le château. Et dans les différentes dépendances, il faut rajouter la grande écurie, la petite écurie, le grand commun, l'hôtel du grand veneur, le chenil, etc. À peu près 2700 personnes, donc à peu près 6700 personnes qui sont logées aux frais de la couronne dans le château et ses dépendances.
Et c'est énorme. Était-ce des logements de fonction ou des logements de faveur ?
Alors, il y a la difficulté justement à Versailles, c'est d'obtenir un logement. Et pour obtenir un logement, la règle, c'est d'avoir une charge auprès de l'un des membres de la famille royale. Sont logés de droit le roi, la reine et la famille royale, élargie, c'est-à-dire fils et petits-fils de France et arrière-petits-fils de France quand il y en a, mais également les collatéraux, les condés, conti. Sinon, pour justifier d'avoir un logement à Versailles, il convient d'avoir une charge auprès de l'un des membres de cette famille. Alors, on peut avoir des logements de fonction. Il y a des logements de fonction, c'est-à-dire des logements qui sont véritablement attribués à telle ou telle charge. Alors, je parle de ce que je connais le mieux, évidemment. Les premiers valets de chambre avaient un appartement de fonction immédiatement proche de l'appartement du roi. Ce qui ne les empêchait pas, donc cet appartement de fonction était occupé durant leur service, qui était trimestriel, ce qui ne les empêchait pas d'avoir de grands appartements toute l'année dans le reste du château. Et on a un cas extraordinaire qui est celui de Madame de Maintenon, qui, jusqu'en 1679, était logée dans l'appartement de Madame de Montespan ou en ville. Et on sait très bien que Louis XIV s'était rapproché très étroitement de Madame de Maintenon. Et en 1679, l'entente avec Madame de Montespan n'est plus très bonne. Et Louis XIV a l'idée, pour la loger, au moment où on constitue la maison de la dauphine Bavière, qui doit épouser le fils aîné du roi, en décembre 1679, de créer une nouvelle charge qui n'existait pas, de seconde dame d'Atours. Et c'est par cette création, en fait, que Louis XIV justifie l'attribution d'un logement à Madame de Maintenon. Donc on voit quand même que même si de temps en temps il y a des faveurs, soit on obtient un logement dans un premier temps, mais immédiatement il est compensé par une charge au sein des maisons royales, soit on a une charge et on n'a pas encore le logement et du coup on obtient un logement. Mais c'est très très compliqué.
Vous racontez l'anecdote, parce que le roi a parfois ses fantaisies, je dis parfois, non pas systématiquement, mais des règles, des personnes qui se voient attribuer un logement en dehors de l'usage. Et vous citez le cas de ce Dangeau ou Dangeau qui, lui, s'est mis à versifier à la demande du roi, relevant le défi du roi et obtenant de fait ce logement. C'est une chose courante ou...
Non, là, c'est vraiment assez exceptionnel dans la mesure où, en plus, cette anecdote est rapportée par le duc de Saint-Simon à propos du marquis de Dangeau, qui est quand même la source de ses mémoires. Il faut savoir que les mémoires de Saint-Simon ont été faites à partir du journal du marquis de Dangeau. Et alors, Saint-Simon n'a pas beaucoup d'égards envers ce pauvre marquis de Dangeau qui effectivement passait pour un courtisan extrême de la monarchie. Son journal en témoigne, il est consigné à partir de 1684 jusqu'en 1720 au jour le jour ce que faisait le roi. Et effectivement, il a été mis au défi de composer des vers où le roi lui donnait quelques rimes et il fallait qu'il compose immédiatement un poème. Néanmoins, il avait quand même obtenu une charge auprès du dauphin comme menin et également une autre charge de chevalier d'honneur auprès d'une princesse royale.
Comme menin, c'est-à-dire ?
C'est-à-dire que c'était des personnes qui accompagnaient le dauphin. Ce sont des gens qui suivent en fait la cour du dauphin.
Alors, on peut entrer dans un logement. Il y a des listes d'attente, ce qu'on appellerait des listes d'attente, de personnes qui souhaiteraient mais qui ne peuvent pas.
Alors, il n'y a pas vraiment de liste d'attente, puisque la règle étant, j'ai une charge, j'obtiens un logement. Après, là où il peut y avoir des listes d'attente, c'est surtout au niveau de la qualité du logement. Alors évidemment, normalement, plus la charge est importante, plus on est proche du roi, mais pas nécessairement. On a des ajustements qui se font, là, pour le coup, à la faveur. Et il y a, en tout cas, des intrigues auprès de l'intendant du château ou pour faire jouer ces différents réseaux d'influence pour se rapprocher le plus proche du roi, c'est-à-dire dans le corps central et non pas dans les ailes. Et toutefois, parfois, vous avez aussi des îlots dans le château, notamment dans l'aile du nord du château. À l'extrémité, vous aviez tout ce qu'on appelait le petit troupeau de Fénelon, Madame Guyon, etc., où on a les Beauvilliers, Fénelon, Chevreuse, les trois filles Colbert qui sont mariées au duc de Chevreuse, au duc de Beauvilliers, qui arrivent à se constituer des appartements proches les unes des autres.
Quelle est la sociologie de l'habitat de Versailles ?
Alors, c'est assez simple pour ce qui concerne le corps central. En général, la famille royale est véritablement logée dans le corps central, famille proche, c'est-à-dire le roi et la reine, le roi au nord, la reine au sud. Quand il n'y a plus de reine, donc c'est la dauphine. Monsieur, c'est-à-dire le frère du roi et la duchesse d'Orléans, dans un premier temps, ils étaient au rez-de-chaussée, l'angle sud-est du château. Et quand est né Monseigneur le dauphin a récupéré cet appartement. Ensuite, la famille d'Orléans se répartit au premier étage sur jardin de l'aile du midi, les Condés, Conti à l'aile du nord. Donc tout ce qui est famille royale a les beaux appartements premier étage ou rez-de-chaussée côté jardin, y compris les légitimés, c'est-à-dire le comte de Toulouse, le duc du Maine, qui sont les enfants bâtards de Louis XIV et de Madame de Montespan. Et ensuite, ce sont vraiment les proches domestiques qui sont les premiers gentilshommes de la chambre, les premiers valets de chambre, qui arrivent à se rapprocher le plus du souverain. Après, c'est un petit peu plus compliqué, on s'éloigne, et il y a des personnes qui sont logées dans le grand commun qui aspirent à gagner le château, le corps même du château. Mais on a, par exemple, Lully, le nôtre, qui ne seront jamais logés dans le corps même du château, mais dans le grand commun.
Alors, on peut entrer obtenir un logement, mais on peut être également exclu.
Alors, il y a Lauzun, il y a les cas de gens qui tombent en disgrâce. Donc, il y a le duc de Lauzun qui, après avoir été grand favori de Louis XIV jusqu'aux années 1660, début 1670, qui est pour avoir maltraité la maîtresse en titre, Madame de Montespan, mais également avoir prétendu épouser la grande mademoiselle, cousine du roi, et avoir abusé de sa faveur auprès de Louis XIV, s'est vu retirer son logement et ne reviendra à la cour finalement qu'une vingtaine d'années plus tard, une petite vingtaine d'années plus tard, et du coup, on perd son logement. Et sans même que ce soit une disgrâce totale, on peut perdre un bel appartement et être relégué dans d'autres endroits. On a d'autres cas, en fait, plus significatifs, notamment lorsqu'une maîtresse royale tombe en disgrâce, et Madame de Montespan, qui, après avoir occupé un appartement d'une vingtaine de pièces au premier étage, dans la continuité de l'appartement intérieur du roi, sera reléguée dans un premier temps au rez-de-chaussée, dans l'ancien appartement des bains, qui était le lieu des plaisirs du roi et de Madame de Montespan, justement, et qui sera totalement exclue en 1691, lorsqu'elle aura cette parole malheureuse de dire qu'elle veut quitter la cour, et finalement elle est prise au mot, et on débarrasse son appartement, elle se retire en fait au couvent.
Vous êtes à l'écoute de Canal Academy et je reçois Mathieu Davignat, auteur du livre « Le Versailles de Louis XIV », paru aux éditions Perrin. Nous nous retrouvons dans un instant. À tout de suite.
Découvrez l'empereur Frédéric Barberousse. À la fois personnage historique, mythe et héros de légende, son histoire vous est contée par Pierre Racine, qui lui consacre une biographie dont la préface a été rédigée par Francis Rapp de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres. Un livre et une émission « Un jour dans l'histoire » indispensable à la compréhension de la Germanie et de l'Italie du XIIe siècle. Retrouvez l'histoire de l'empereur Frédéric Barberousse en libre écoute et libre téléchargement sur canalacademy.com.
Nous nous retrouvons pour cette émission consacrée à la vie quotidienne au château de Versailles. Donc à l'époque de Louis XIV, je reçois Mathieu Davignat, auteur du livre « Le Versailles de Louis XIV » paru aux éditions Perrin. Alors nous avons évoqué, Mathieu, les logements, donc qui est une des choses les plus importantes bien évidemment dans votre description de cette vie quotidienne. Il faut se loger, mais il faut aussi se nourrir. Comment avez-vous réussi à trouver des éléments sur cette fonction, sur cette charge que l'on appelle la bouche à cour?
Alors, la bouche à cour est réservée non pas à tous les logeants, c'est déjà un honneur d'être logé à Versailles, c'en est encore plus d'être logé aux frais du roi. Et on a différents documents dans les archives qui nous expliquent véritablement comment fonctionne. Ce n'est pas trop compliqué de voir comment fonctionne. En tout cas, on a les documents, la bouche du roi, c'est-à-dire pour savoir comment le roi et sa famille sont nourris. Là où c'est plus compliqué, c'est de savoir comment se nourrissent les 6700 personnes dont on a parlé, qui sont logées à Versailles. Et tout le monde, évidemment, n'a pas le droit à la bouche à cour. Alors, plusieurs possibilités. Un, être un commensal, c'est-à-dire un officier sert le roi assez important pour avoir le droit d'être nourri à l'une des 7 tables royales. Vous aviez plusieurs tables, la table du grand chambellan, la table du grand maître, la table des valets de chambre, la table du cerdeau, et donc plusieurs tables comme ça, la du premier maître d'hôtel de la reine ou de la dauphine, etc. Donc vous êtes un officier relativement important, vous avez votre place qui vous attend à l'une de ces tables. Autre solution, vous n'êtes pas aussi important, mais vous pouvez être dédommagé en nature. Vous avez dans votre charge, en plus de vos gages, un forfait repas qui vous permet d'aller vous nourrir dans les auberges en ville ou dans les cabarets ou de faire venir puisque, comme vous voulez. Autre cas, vous êtes un courtisan et vous avez quand même une charge, mais vous n'êtes pas autorisé à aller aux tables, vous n'êtes pas autorisé à avoir de l'argent pour cela. Donc, vous envoyez vos propres domestiques, puisque les personnes qui habitent à Versailles ont leurs domestiques avec eux. C'est-à-dire que, on ne l'a pas dit tout à l'heure, les logements sont relativement petits. Je dis relativement parce que pour les gens de cette envergure, habiter dans 4 pièces à Versailles, c'est relativement petit. En revanche, ils ont la plupart un hôtel particulier en ville dans lequel ils logent leur domesticité qui vient les rejoindre uniquement pour la journée, dans lequel il y a la vaisselle, les carrosses, etc. Et donc, on envoie le domestique aller chercher de la nourriture en ville. Ou alors, autre solution, il y a également ce qu'on appelle le regras, c'est-à-dire se nourrir des tables royales. C'est-à-dire que les tables royales, il y a un système pyramidal qui fait que la table du roi va servir plusieurs fois. Elle est tellement fournie qu'une des tables qui est alimentée dans les tables royales, il y a la table du cerdeau, c'est-à-dire c'est la table du cerdeau auquel mangent plusieurs domestiques. Et en fait, les restes sont les restes de la table du roi. Mais au-delà de la table du cerdeau, c'est tellement fourni qu'il y a encore, la table du cerdeau sert encore pour d'autres domestiques encore inférieurs. On sait très bien que la table des valets de chambre sert aux valets des valets de chambre. Ils mangent de la desserte des valets de chambre. Ensuite, toutes ces tables fournissent jusqu'à un certain point. Et au dernier point, c'est revendu aux grilles du château, ce qu'on appelle le regras. Et c'est là où les courtisans peuvent envoyer leurs domestiques acheter les restes des différentes tables. Et il y a d'autres astuces plus limites, on pourrait dire, qui sont piquer une table, chercher midi, c'est-à-dire se présenter chez quelqu'un qui a une cuisine, donc luxe exceptionnel, ou qui est nourri en tout cas d'une manière ou d'une autre, et se présenter à midi chez la personne qui, du coup, si elle est poli, ne peut vous refuser l'hospitalité et du coup vous invite à déjeuner.
En amont, il y a tout un système de commandes, de fournisseurs. Il y a ce qu'on appelle aujourd'hui des véritables appels d'offres pour une durée limitée.
Oui, alors il y a ça, c'est ce qui est véritablement ce qui est le plus difficile à comprendre et en tout cas à cerner, parce qu'on n'a pas toutes les pièces archivistiques pour l'expliquer. On sait comment ça fonctionne, parce qu'on a les règlements du grand maître de la maison du roi qui gérait toutes les tables royales. Et on a un approvisionnement, ce qu'on appelait les pourvoiries, les marchés de pourvoiries, qui étaient faits pour 3 ou 6 ans. Où c'était d'immenses appels d'offres auprès de grands bouchers. On avait un marché de pourvoirie pour la viande, un marché de pourvoirie pour le pain, etc., etc. Et différents marchés de pourvoirie auxquels ne pouvaient répondre vraisemblablement que des grands, grands producteurs derrière lesquels se cachaient des grands financiers.
Parce qu'il faut avancer énormément d'argent, parce qu'on était payé au bout de 3 ans ou
voilà.
6 ans.
Il fallait systématiquement relancer l'administration royale pour se faire payer. Donc, il faut être capable d'avancer des sommes colossales, ou en tout cas d'avancer la marchandise, c'est-à-dire une perte de trésorerie. Ouais. Et du coup, tout en sachant qu'on se fera rembourser dans les 3 à 6 ans qui suivent le marché.
Le roi est un bon payeur ?
Non, le roi n'est pas un bon payeur. On a des exemples dans tous les domaines où on a encore des mémoires de personnes, notamment d'artisans, qui demandent à se faire payer une vingtaine d'années après, qui supplient. Alors, on paye éventuellement un dédommagement, mais ça peut durer, s'étendre sur 20 ans pour se faire payer un travail.
Alors, j'en reviens au repas et à la bouche à court. Comment se décidaient les différents soupers, les différents déjeuners ? Qui définissait les recettes, le repas du roi ?
Alors, il y a un bureau qu'on appelait le bureau de la bouche au sein de la maison du roi, qui est assez complexe, où il y a une quinzaine de personnes qui, tous les semaines, se réunissent pour déterminer les menus royaux. Alors, en gros, on a des menus qui sont, non pas des menus, mais on a des pièces comptables sur l'année. Donc on sait qu'on va commander tant de viande, tant de moutons, tant de bœuf, tant de choses comme ça. Mais ça ne détermine pas en tout cas le menu. Et le menu est véritablement déterminé entre, en gros, une petite dizaine de personnes, dont les grands personnages les plus importants sont les maîtres d'hôtel, le premier maître d'hôtel du roi, puisqu'on se doute que le grand maître de la maison du roi, qui est un Condé, assiste assez peu à ce bureau du roi. Et les menus sont élaborés pour la semaine, comme ça, de façon hebdomadaire. Alors, il y a les jours gras, les jours maigres, etc., suivant les fêtes religieuses. Et c'est élaboré au fur et à mesure. Bon, je doute, en tout cas, je n'avais pas du tout la conviction, de la diversité des menus.
Évidemment, il n'y a pas simplement que la nourriture, il y a aussi les vins. C'est le même principe, il y a un
Alors,
système
a,
de commande.
Alors, il devait y avoir, je n'ai pas traité ça particulièrement, mais oui. Je pense qu'il y avait effectivement aussi un appel d'offres sur les vins. On sait que le roi était friand d'Irancy, un vin de Bourgogne, qu'il aimait beaucoup le champagne, aussi le Dom Pérignon, qu'il buvait assez peu d'eau, en tout cas, et même que son vin était en général coupé à l'eau, ce qui peut être un scandale aujourd'hui pour les œnologues, certainement. Mais on a la connaissance du goût, en tout cas, pour le roi au niveau des vins. Je ne l'ai pas traité.
Vous dites dans votre livre que les menus du roi, ou la façon en tous les cas dont Louis XIV se restaurait, ferait frémir un diététicien aujourd'hui.
Oui, c'est-à-dire qu'il mangeait véritablement beaucoup. Alors on a découvert en fait rétrospectivement, lorsqu'il est décédé ou qu'il y avait eu, il y a eu l'ouverture de son corps, ce qui était fait systématiquement à la mort d'un roi, on s'est aperçu qu'il avait un intestin anormalement long, et on parlait même de ténia, de vers solitaire, tellement apparemment il mangeait de grosses capacités. C'est-à-dire qu'on sait qu'il y avait en France, à cette époque, il y avait le service à la française, c'est-à-dire qu'il y avait 5 services consécutifs qui se présentaient à la table du roi, et chaque service comportait une vingtaine de plats. Donc, il faut savoir qu'on piquait un peu de tout. Mais le roi, la princesse Madame Palatine, la belle-sœur du roi, la duchesse d'Orléans, a décrit un des repas du royaux où elle explique qu'il mange un poulet entier, 3 salades, une tranche de jambon. Mais alors, ce n'est pas du tout le jambon tel qu'on l'imagine aujourd'hui. Il faut imaginer vraiment. Et le roi est un très, très gros mangeur et surtout très, très gras, comme ça pouvait être à l'époque, etc., mangeant beaucoup de sucre également. Donc, effectivement, c'est un petit peu étonnant, parce que même pour l'époque, même son entourage note la façon dont le roi mange.
Les repas étaient pris en public, hein, on le sait, c'est une des images que l'on voit notamment dans le cinéma, mais il y a également des repas privés.
Alors le roi, Louis XIV, mange la plupart du temps le midi seul en public dans sa chambre, et le soir, alors on dit qu'il dîne le midi, puisque c'était le vocabulaire de l'époque, et qu'il soupait au grand couvert le soir, en public également, avec sa famille. Mais il y avait également ce qu'on appelait des medianoche, c'est-à-dire des parties dans lesquelles le roi mangeait plutôt vers minuit, donc d'où ce terme de medianoche, en compagnie de ses maîtresses et de façon un peu plus simple, en tout cas où il n'y avait pas toute la pompe royale développée autour du cérémonial du repas.
Alors ce qu'il y a d'intéressant, c'est que vous décrivez un aspect du règne de Louis XIV qui est au fond la professionnalisation des métiers. C'est un caractère vraiment de ce règne, et notamment donc dans les métiers de bouche.
Oui, parce que Louis XIV tenait, en tout cas avait ce mérite, de préférer le mérite à la naissance. Les observateurs du temps, notamment les grands aristocrates tels que sa belle-sœur ou le duc de Saint-Simon, critique cette professionnalisation des métiers, des charges. Et on en reparlera au XVIIIe siècle, puisque le marquis de Breteuil, qui sera le secrétaire d'État à la maison du roi de Louis XVI, renotera cette spécificité de Louis XIV qui a autorisé que les officiers de la bouche, qui normalement devaient tous être de naissance noble pour pouvoir servir le roi, Louis XIV a banni, a rayé d'un trait de plume cette naissance, puisqu'il préférait des gens qui étaient compétents à des gens de naissance. Alors évidemment, du coup, ça créera des petits soucis pour le grand maître qui ne voudra plus du tout se mêler du choix de certains maîtres d'hôtel, dans la mesure où il ne veut pas en être responsable vis-à-vis de la santé, vis-à-vis de la personne du corps royal. Donc, c'est-à-dire que si le roi décide, en tout cas, que ce soit de non-aristocrates qui le servent, il en prend lui-même la responsabilité, ils sont nommés directement par le roi.
Alors, nous évoquions le fait que le roi prenne son dîner en public, j'allais dire déjeuner, mais c'est, le déjeuner était bien un dîner, le midi. Cela implique la sécurité. Et il y a tout un système de sécurité. Il y a une chose qui est extraordinaire et qu'on a du mal à imaginer, mais imaginons-la, imaginons que l'on puisse aujourd'hui sortir là, de l'Institut, traverser la Seine, rentrer dans le jardin de l'Élysée et côtoyer au fond Nicolas Sarkozy. C'est ce que l'on peut faire réellement ?
Oui, c'est la tradition ancestrale de la monarchie française qui veut que le souverain soit accessible à tous ses sujets. Alors, cette accessibilité est plus ou moins limitée. Il faut savoir que pour rentrer au château de Versailles, il fallait être bien habillé, c'est-à-dire portant chapeau et épée, bizarrement. Épée, alors qu'on peut penser que c'est une arme. Mais en tout cas, c'est accessible. Accéder jusqu'au repas du roi, c'est un peu plus... il faut être quand même assez invité par l'un des membres de la cour pour accéder au moins, parce que le repas est limité quand même à 150-200 personnes, hein, puisque l'état des lieux fait qu'on ne peut pas y rentrer à plus. Mais quelqu'un qui se laisse faire introduire par un membre de la cour, il n'y a pas de problème. On a des récits d'un abbé de province qui arrive à Versailles, qui connaît quelqu'un et qui se retrouve à regarder le roi manger. Alors, accessibilité quand même limitée, puisque le roi est systématiquement entouré de gardes. Quand il se déplace dans le château, il a un carré de gardes autour de lui et qui le protège de la foule. Et, c'est-à-dire qu'il a son capitaine des gardes du corps derrière lui, son capitaine des sangs suisses devant lui, l'enseigne de ses gardes du corps à sa droite, l'enseigne des sangs suisses à sa gauche, plus après tout un carré d'hommes autour de lui qui, lorsqu'il circule. Et lorsqu'on parle d'accessibilité, ça veut dire aussi qu'on a le droit de parler au roi. Or, on a le droit de parler au roi uniquement s'il vous adresse le premier la parole. Donc, vous voyez, ça limite quand même le dialogue avec le roi.
Il n'y a pas d'invective.
Non, non, non. C'est-à-dire qu'on accepte uniquement que le roi soit invectivé si c'est quelqu'un qui est extérieur à la cour, qui ne connaît pas les codes et l'étiquette. Et dans ce cas-là, un paysan... Alors après, je ne réponds pas de l'avis du paysan s'il dit des... s'il attaque le roi. Oui. Mais en tout cas, si c'est pour lui dire des choses convenables, etc., pour peu que le roi soit de sortie et qu'on ne connaisse pas les codes, les paysans ou les gens non issus de la cour peuvent apostropher le roi. En revanche, au sein de la cour, on peut répondre uniquement lorsque le roi vous remarque, c'est-à-dire lorsqu'on a pu faire une demande préalable par placet ou une requête voilà, spécifique.
Et comment se place le placé en question, alors, sans vouloir faire de plaisir.
Alors, les placets, en fait, étaient remis lors des trajets que le roi faisait dans son château, notamment au moment où il se lève et qu'il se rend à la chapelle. Et durant tout le cortège jusqu'à la chapelle, le roi est encadré, donc évidemment, de ses gardes. Mais vous avez la foule des courtisans qui l'entourent et on donne au premier valet de chambre, au capitaine des gardes, etc., qui prennent les placets et après, ils sont remis ultérieurement au roi. Et le roi, s'il daigne lire votre placet et s'y intéresser, le lendemain, par exemple sur le chemin, il regarde et il dit « Monsieur un tel ». Et du coup, la personne le salue, enlève son chapeau, fait la révérence. Et du coup, il y a un dialogue qui peut s'instaurer.
Nous allons revenir dans quelques instants sur d'autres aspects de la sécurité. Est-ce un lieu sûr ? Est-ce que Versailles est un lieu sûr ? Y a-t-il des vols ? Y a-t-il des dégradations ? C'est ce que nous allons voir, Mathieu Davina, dans un instant.
Le maréchal Foch est connu pour être le vainqueur de la Marne lors de la Première Guerre mondiale. Mais nous connaissons moins son combat d'après-guerre et bien moins encore ses origines, sa formation intellectuelle et sa jeunesse. Qui fut donc le maréchal Ferdinand Foch ? Réponse en compagnie du biographe Jean-Christophe Notin dans l'émission « Un jour dans l'histoire ». Foch, du mythe aux réalités, une émission à télécharger librement sur le site canalacademy.com.
Nous entamons la dernière partie de cette émission consacrée à la vie dans le château de Versailles. Je reçois Mathieu Davignat, auteur du livre « Le Versailles de Louis XIV » paru aux éditions Perrin. Nous évoquions l'aspect de la sécurité. Est-ce que Versailles est sujet à des vols, des dégradations ? Et donc, Versailles doit-il faire l'objet d'un entretien particulier ?
Alors, malgré effectivement les différentes manières qu'on prend pour protéger le château, Versailles est sujet, de par son ouverture, on en a parlé, à différentes dégradations. Alors, qui s'expriment le plus dans les jardins, puisque le roi voulait que ces jardins soient accessibles. Et puis, assez rapidement, il se rend compte qu'il y a des dégradations dans les bosquets, qu'on vole des vases, qu'on dégrade les jardins. Donc, il fait installer des grilles et il parle même de canailles, où il ne veut pas que la canaille visite ses jardins. Donc, les jardins sont fermés dans un premier temps. Mais il y a également des vols en interne, beaucoup plus graves, où il y a cette histoire de franges d'or, des rideaux des grands appartements qui sont subtilisés en une soirée et qui réapparaissent étonnamment 3 jours plus tard sur la table du roi, jetés par-dessus la foule des gens qui assistaient au souper du roi. Alors on fait fermer évidemment le château immédiatement, mais on ne retrouvera jamais l'auteur de ce vol. Et il y a un mot qui est attaché à ce paquet en disant « Bon temps, voilà tes franges, la peine passe le profit ». Donc Bon temps était premier valet de chambre du roi et également intendant du château, qui en cela était en charge de la sécurité du château. Alors on pense à quelqu'un qui avait voulu se venger et que ce n'était pas forcément un grand danger pour le roi, mais ça n'empêche que le bon temps a été atteint dans son intégrité ici. Et on a des vols lors des soirées d'appartement où Monseigneur le Dauphin laisse une bourse dans laquelle il y a plusieurs louis d'or et évidemment, elle est immédiatement subtilisée et on ne la retrouve pas. Il y a également des pauvres officiers du roi, des gardes qui, lors du jeu du roi, se font subtiliser leur bourse. Et le roi, en général, est suffisamment généreux pour les rembourser de la somme en leur faisant confiance. Ça arrivera également à des officiers du duc de Bourgogne, le premier valet de chambre du duc de Bourgogne.
C'est ce qui est incroyable, c'est qu'il y a une responsabilité du bien meuble. C'est-à-dire que le roi tient à rembourser parce que c'est chez lui. Il tient à rembourser absolument ce qui a été volé.
Oui. Donc, et on le voit notamment même avec son petit-fils, le duc de Bourgogne, le père du futur Louis XV. Moreau, son premier valet de chambre, s'est fait voler une somme énorme, mais dans son appartement. C'est-à-dire que là, l'appartement a été forcé et on lui a volé non seulement de l'argent propre, mais également de l'argent qui appartenait à son maître, en l'occurrence le duc de Bourgogne, puisqu'on sait que chaque domestique qui sont proches de la famille royale ont une cassette sur laquelle ils dépensent directement pour les biens immédiats de leur maître. Et le duc de Bourgogne lui répond cette phrase « Je ne vous ai jamais parlé en maître, et là je veux vous parler en maître en vous disant que je veux vous rembourser la somme qu'on vous a volée. » Il y a tout un système de garde assez complexe à Versailles, puisque pour se plonger dedans, j'ai eu beaucoup de mal, n'étant pas spécialiste de l'histoire militaire, mais vous avez différents corps de garde qui patrouillent entre les gardes du dedans, les gardes du dehors, les gardes de la porte, les hoquetons, différents corps de garde très très complexes qui se relaient à 18h le soir, suivant l'heure à laquelle on se trouve, suivant le lieu géographique où on est dans le palais, à l'intérieur, à l'extérieur. Tout ça est très très complexe. Alors ça ne devait pas l'être pour l'époque, mais pour essayer de démêler cela aujourd'hui, de savoir comment fonctionne la sécurité autour du château, c'est très compliqué.
On est malgré tout dans ce lieu en sécurité ?
Alors oui, on peut imaginer qu'on est en sécurité. Il y a quand même différents barrages avant d'arriver dans les appartements. On n'est pas à l'abri d'un attentat sur la personne du roi. Mais on peut estimer quand même qu'avec les centaines ou les milliers à l'extérieur du château, en tout cas, mais les centaines de gardes qui sont à l'intérieur, que le château est relativement sécurisé.
C'est assez étrange. Il y a des fétichistes à l'époque, et même encore toujours d'ailleurs aujourd'hui, puisque vous signalez les vols.
Les vols de poignées de porte ou de choses comme ça. Oui.
Alors, nous arrivons peu à peu à la fin de cette émission. Il y a beaucoup d'autres aspects. Je renvoie nos auditeurs au lieu de commodité, c'est-à-dire
dire, à l'hygiène corporelle qui était importante, plus qu'on ne le croit, ou plus que l'image en est généralement donnée par un 19e siècle qui refusait l'idée d'Ancien Régime. Je voudrais parler, non pas d'hygiène, mais d'entretien, simplement, l'entretien du palais. On imagine des armées de balayeurs, de personnes qui remplacent les bougies, etc.
Alors, on a effectivement plusieurs dizaines de personnes, mais qui sont assez peu identifiables, puisque ce sont tellement ce qu'on appelle les utilités, ce que Jacques Levron appelait les utilités, qui sont noyées. Alors, de temps en temps, on trouve des mentions de nettoyeurs, des personnes qui cirent les parquets, de balayeurs, mais c'est très difficile d'appréhender, en tout cas, l'entretien du château. Alors, il y a l'entretien, évidemment, qu'on pourrait appeler l'entretien, les frais de fonctionnement, c'est-à-dire ce qui est logique, c'est-à-dire que chaque année, on prévoit une somme pour les maçonneries, pour les toitures, pour... Donc, qui sont des grands marchés d'entretien qui sont véritablement bien identifiés. On a à peu près 200 000 livres tournois à l'époque qui sont affectés à l'entretien du château pour ce qui concerne les grands marchés, mais qui sont faits passer auprès de grands entrepreneurs. En revanche, il est beaucoup plus difficile de comprendre comment on change les bougies, quel service. Donc, on sait que c'est la fruiterie, mais c'est au détour de lecture d'archives qu'on peut voir petit à petit comment ce sont les officiers qui arrivent les premiers à la bouche du roi qui sont chargés de changer les falots et de voir qu'on met bien de la lumière, toujours pour des questions de sécurité, pour voir qui entre et qui sort dans tel ou tel lieu. On trouve dans la surintendance des bâtiments les paiements pour des balayeurs, pour des ciriers, pour des choses comme ça. Mais bizarrement, il n'y a pas de logique, en tout cas dans les paiements. Et on a des sommes qui sont affectées à la surintendance des bâtiments, d'autres à l'intendance des bâtiments, et alors qu'on aurait plutôt imaginé que tel ou tel poste aurait été affecté à l'un ou l'autre, et réciproquement. Donc il n'y a pas une véritable logique. Et cet entretien se fait quotidiennement, mais également de façon... Il y a le grand ménage d'automne où la cour se retire à Fontainebleau. Alors, et on profite du retrait de la cour à Fontainebleau à l'automne pour véritablement refaire toutes les peintures éventuelles, lessiver les murs et faire le grand entretien.
Est-ce qu'il y a des événements ? Je crois qu'à un moment, vous parlez de tempêtes qui ont évidemment une incidence. Je crois qu'il y a eu un moment, ou peut-être à plusieurs moments, des incendies.
Oui, il y a eu un ou deux incendies, donc c'est quand même extraordinaire. Sachant les risques que le château pouvait courir et avec l'idée que les pompiers à l'époque n'existent pas totalement. On a des gens qui sont mobilisés, y compris la ville de Versailles est mobilisée en cas d'incendie. Et lors d'un très grand incendie en 1707 dans l'appartement du duc de Noailles, 4000 Versaillais sont réquisitionnés, c'est vraiment le terme, sont réveillés en pleine nuit pour venir éteindre l'incendie. Mais on a également des cas extraordinaires, des dépenses extraordinaires, comme cette tempête qui s'abat sur Versailles lors de la Chandeleur en 1701, où on a les toitures qui sont détruites, mais on a également... Et du coup, on est obligé de prévoir des budgets supplémentaires pour pallier les dégâts. Mais on a eu aussi des dégâts lors de la construction, où on a des planchers qui s'écroulent parce qu'ils ont été mal construits, parce qu'on était... On parlait tout à l'heure des systèmes d'appel d'offres, mais le premier Versailles, il faut savoir qu'il a été construit dans un premier temps avec des appels d'offres, ce qu'on appelait au moins offrant. C'est-à-dire que vous aviez un système d'adjudication des marchés au rabais, à la bougie. C'est-à-dire que tant que la bougie n'était pas éteinte, vous aviez plusieurs entrepreneurs qui étaient là pour dire, parce que le marché était par exemple de construire un corps de bâtiment, et le premier dit « moi je propose de le faire pour 200 000 livres », le deuxième dit « moi je propose de le faire pour 190 000 livres », et ensuite on descend, donc on imagine très bien que les matériaux, à la fin, ne devaient plus être de la meilleure qualité. Et du coup, on s'est retrouvé dans les premiers de Versailles de 1770 avec des catastrophes, des choses qui s'écroulent. Et finalement, Colbert a décidé de mettre fin à ce système et plutôt payer un peu plus cher avec des entrepreneurs dont on avait la certitude qu'ils allaient bien faire le travail plutôt que des moins offrants.
Alors, il y a les fêtes également. Malheureusement, nous n'avons pas assez de temps pour les présenter. Mais malgré tout, Versailles apparaît comme un endroit où l'on ne s'ennuie pas.
Alors, où on ne s'ennuie pas au début, en fait. C'est ça, la grande... innovation de Versailles, entre guillemets, c'est que Versailles est né des fêtes, des jardins et des fêtes qui se tinrent dans les jardins. Et finalement, le Versailles qu'on voit policé à partir de 1682, au moment où Versailles devient résidence officielle, on est dans un Versailles finalement où tout est cadré. Alors, au début, ça a encore un peu d'attrait, d'amusement, et c'est-à-dire qu'il y a des grandes fêtes de 1664, 1668, 1674, d'autres fêtes, parce que là, ce sont les plus connues, c'est-à-dire celles qui ont été relatées, mais il y avait des fêtes systématiques, la Comédie italienne, la Comédie française. Et finalement, en 1682, lorsque la cour s'installe de façon définitive à Versailles, c'est tout est policé. Et est-ce que la cour s'amuse véritablement? J'en suis pas sûr. C'est-à-dire qu'on est sommé d'aller aux soirées d'appartement. Alors le jeu, certainement, attire encore un peu parce qu'il a un côté grisant. Mais les autres divertissements sont beaucoup plus pesants pour la cour, qui est obligée de les suivre parce que le roi l'impose.
Vous décrivez en quelque sorte une habitude qui s'installe. Vous présentez notamment une des dernières fêtes en février 1715 pour l'envoyé du chat de Perse, Mehemet Red Zavei. Et ce qui est intéressant de voir, c'est le décalage entre, au fond, un public qui n'y croit plus et ce roi qui est toujours là, mais qui...
Alors, le roi est toujours là et le roi reste Louis XIV. Donc, ouais. Forcément, on est obligé de faire semblant. Mais même le roi n'est pas dupe de cette dernière ambassade de 1715 en février. Le roi mourra le 1er septembre de la même année. Et c'est un ambassadeur que le duc de Saint-Simon mettait en doute la réalité. Il parlait d'un commerçant qu'on avait croisé dans la rue et qu'on avait déguisé en ambassadeur de Perse. Finalement, il se trouve que c'est un véritable ambassadeur, mais que politiquement, cette ambassade n'avait absolument pas lieu d'être. Mais le roi joue quand même le jeu. Ouais. Il joue son rôle de la majesté et il sort... Notamment, il y a un habit sur lequel il y a 12,5 millions de livres de joaillerie, de pierres. Donc, il faut imaginer, par exemple, que quand même, Vaux-le-Vicomte, entre l'achat des terres, la construction, l'ameublement, etc., il y en avait pour 4 millions de livres. Donc, il faut savoir qu'il a plus de 3 fois Vaux-le-Vicomte sur son vêtement. Donc, il joue quand même le jeu, même si plus personne n'y croit.
Le roi meurt en 1715 et... Versailles devient une ville morte.
Alors Versailles devient une ville morte, mais que l'intendant essaye de continuer à faire vivre quelque peu, puisque effectivement la cour quitte Versailles pour Paris. Dans un premier temps, Vincennes, puis assez rapidement, elle retourne à Paris. Et Louis Bloin, qui est l'intendant à ce moment-là, qui devient gouverneur, puisque cette fois-ci, là, il n'y a plus d'échappatoire pour Versailles. Versailles tombe dans le domaine de la couronne, puisque... Autant en 1643, la question ne se posait pas trop, vu que c'était un tout petit château. En 1715, on est dans des proportions qu'on connaît aujourd'hui. Et Louis Bloin essaie de faire jouer notamment toutes les grandes eaux tous les 15 jours. Mmh. Il met en sous-location des appartements dans les ailes du château. Alors non pas le corps central, les appartements royaux, mais des appartements de courtisans. Et il essaye de faire vivre tant bien que mal Versailles. Mais finalement, la cour reviendra en 1722 à la demande express de Louis XV et dans un château qui revive sous le règne suivant.
Eh bien, merci beaucoup, Mathieu Davignat, de nous avoir fait ces descriptions de cette vie du château de Versailles, une vie extraordinaire, foisonnante, une ville dans la ville. Je rappelle les références de votre ouvrage, Le Versailles de Louis XIV, paru aux éditions Perrin, et je renvoie surtout et aussi nos auditeurs aux différentes émissions que nous avons pu enregistrer ensemble, notamment celle sur les valets de chambre. Merci beaucoup et à très bientôt pour un nouveau numéro d'Un jour dans l'histoire.